Bonjour à tous. Deux mots simplement avant que le colloque proprement dit commence. J'étais censé vous accueillir hier matin en tant que directeur de la BPI. Alors, une petite explication qui vous a déjà été donnée, mais je préfère vous la redonner moi-même. Je participais, c'est une demande qui m'était faite au dernier moment, hier matin, au grand forum sur la culture qui avait lieu à la grande halle de la Villette, exactement au même moment que ce colloque démarrait. Alors évidemment, je l'ai regretté. Si je suis allé au Forum de la Villette, et c'est un rapport dans une certaine mesure avec ce colloque, c'est que j'ai été le seul représentant des bibliothèques dans ce colloque sur la culture en France. Il me paraissait important de pouvoir porter la voix des bibliothécaires qui, par rapport à la culture et au champ culturel, ont une position, je pense, un peu différente de beaucoup d'autres acteurs culturels. Et je dirais que, dans une certaine mesure, ce colloque illustre notre vision de l'intervention de responsables culturels dans le champ culturel, puisque ce colloque, et ce n'est pas sa moindre qualité, nous montre à quel point la culture n'est pas forcément la culture comme consensus ou uniquement la culture comme consensus, mais que la culture est un espace de réflexion, de pensée qui nous permet d'affronter la complexité des choses, c'est le moins qu'on puisse dire, des êtres humains, la diversité des êtres humains et leur grande complexité. Et je pense que de ce point de vue-là, ce colloque a été à la hauteur de l'enjeu. Les bibliothécaires, je crois que c'est vraiment le sens même de leur activité, pratiquent, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils aient lu ou non Habermas, une éthique de la discussion. Au fond, s'il y a une valeur à laquelle nous croyons en tant que bibliothécaires, c'est l'éthique de la discussion. Non pas, encore une fois, du consensus, mais de la discussion. Et je pense que ce colloque, qui affronte directement un créateur exceptionnel, Céline, mais qui fut en même temps tout sauf moral, je crois qu'on peut le dire, ce colloque illustre notre façon de voir les choses à la BPI. Voilà, je passe immédiatement la parole à Emmanuel Payen, qui est la responsable côté BPI pour ce colloque. Je remercie évidemment André Derval de l'IMEC, qui est le grand maître d'œuvre de ce colloque, et l'une des grandes figures de la réflexion autour de Céline aujourd'hui. Emmanuel Payen.
Merci. Donc, à mon tour, je vous remercie pour votre présence, en fait, parmi nous. Je ne vais pas parler plus longuement. Je vais tout de suite passer la parole à Marie Hartmann, que je vais présenter. Je vais ensuite lui laisser la parole pour qu'elle puisse présenter ses intervenants. Donc, Marie Hartmann est enseignante de littérature contemporaine à l'Université de Caen. Elle a consacré un ouvrage à la trilogie allemande, et qui s'intitulait « L'envers de l'histoire contemporaine ». Voilà, Marie, c'est à toi.
Bonjour. Alors, moi aussi, je vous remercie d'être aussi nombreux, même si c'est un peu impressionnant. Alors, je vais présenter mes deux voisins, donc Daniel Linenberg, qui est historien des idées et essayiste, et puis Jean-Pierre Martin, qui est professeur de littérature contemporaine, romancier et également essayiste. Alors, je présenterai plus longuement leurs travaux, puisque, à la différence d'hier, dans cette table ronde, c'est moi qui commence par présenter le rapport de Céline à l'histoire. Et ensuite, je demanderai à M. Lindenberg de compléter cette présentation, de voir comment lui voit le rapport de Céline à l'histoire. M. Martin, ensuite, voudrait présenter un texte, et puis peut-être plus tard nous rejoindra Yves Pagès, qui devait faire partie de cette table ronde. Alors voilà, le rapport à l'histoire est une question dominante dans l'œuvre de Céline. Dès sa thèse, il la voit comme une sorte de drame romantique avec des convulsions répétitives d'où la raison est presque absente. Ensuite, dans ses romans, il entremêle son histoire à la grande histoire, avec un grand H, en insistant plus sur l'une ou l'autre, selon les textes. Donc, dans ses trois derniers romans, donc ce qu'on appelle la trilogie allemande, d'un château l'autre, Nord et Rigaudon, il prétend raconter son histoire, donc dans l'histoire. Alors, ce lien entre écriture de soi et récit historique entraîne des distorsions et des falsifications dans le récit historique. Pour ce qui concerne les derniers romans, et D'un château l'autre notamment, ce récit raconte la fin lamentable du régime de Vichy, exilé de force à Sigmaringen, en Allemagne. Donc Céline, qui cherche à retrouver les faveurs du public, y insère des visions biaisées de personnalités politiques connues comme Pétain et Laval. Chaque fois, il souligne sa distance avec ces hommes politiques désormais haïs par les Français. Mais il rappelle en même temps ce qui a pu être positif dans leur action avant ou pendant la collaboration. De cette manière, il cherche à rappeler également les aspects positifs, selon lui, de son propre engagement dans la collaboration avec l'Allemagne nazie. Donc la présentation des faits historiques intègre simultanément un réquisitoire et un plaidoyer pour Domo. Prenons l'exemple de la vision de Pétain. Donc Céline prend soin d'abord de rappeler son inimitié avec lui. Il lui attribue cette réplique lorsque on lui propose Céline comme médecin personnel, puisque le sien avait été écarté par les nazis. « J'aime mieux mourir » et tout de suite, aurait dit Pétain. De plus, il ne cesse de ridiculiser les thèmes de la révolution nationale, soulignant l'inanité d'une telle révolution. Famille, travail, patrie, merde, Verdun, patati. Je l'ai connu avec ses 16 cartes à Sigmaringen. Je sais ce que je cause. La critique de Vichy et de Pétain est ancienne chez Céline. Mais elle sert ici une stratégie polémique. La dénonciation renouvelée de l'échec du régime de Vichy et celle du traitement de faveur des politiques à Sigmaringen apparaissent comme des preuves à décharge dans un récit rétrospectif. Pour le lectorat à long terme, Pétain et Laval deviennent les figures emblématiques de ce régime honni. En critiquant Pétain à la fin des années 1950, Céline se met à l'abri de l'histoire qui a transféré sur lui et sur Laval la responsabilité de cette période. Du reste, selon lui, cette responsabilité était déjà évidente pour la foule de Sigmaringen, la faute à Pétain. Plus généralement, dans cette contre-histoire de la fin de la collaboration, le détail authentique, l'appétit légendaire de Pétain, vise à donner à l'ensemble un accent de vérité. Cette vérité, elle rejaillit sur le parcours du personnage central, Céline donc, et autorise, à côté de la critique anecdotique, une révision historique qui fausse, au contraire, la vérité sur cette période. Soit un autre exemple, la promenade de Pétain. C'est une vision quotidienne à Sigmaringen. Elle consiste en une sortie en voiture. Pétain est conduit par son chauffeur et il se fait poser sur la route de Tüttlingen ou de Meersgirch et il marche le plus souvent tout seul. Alors, Henri Rousseau, donc l'historien de cette période, souligne qu'elle évoque plutôt les promenades de Napoléon à l'île d'Elbe. Mais, critiquant Vichy et ses dignitaires, Céline la restitue comme une parade protocolaire. Il écrit « Le protocole est ainsi. D'abord le glaive Pétain, et puis la justice, et puis les finances, et puis les autres, les mégoteux. » Dans ce deuxième exemple, le petit fait vrai est à nouveau pris dans une logique satirique visant à souligner la distance critique de Céline. Mais cette colonne de ministres étant prise sous un bombardement, voici comment il commente la fin de l'anecdote. J'insiste, parce que question de Pétain, on a raconté qu'il était devenu si gâteux qu'il n'entendait plus les bombes ni les sirènes, qu'il prenait les militaires Fritz pour ses propres gardes de Vichy. Je peux rétablir la vérité, je peux dire moi qu'il détestait, je parle en parfaite indépendance, qu'il n'aurait pas pris le commandement au moment du pont, fait démarrer la procession, personne réchappait. La décision à Pétain qui a fait sortir tout le monde de sous l'arche, comme c'est le caractère à Pétain qui fit remonter l'armée en ligne au moment de 17. Je peux parler de lui bien librement, il m'exécrait. La comparaison entre les deux périodes, caractère de Pétain en 1917 et décision en 1945, rappelle, même si c'est à propos d'un acte de bravoure dérisoire, la caractérisation de celui-ci comme sauveur de la France, personne réchappait. La satire et la critique servent ainsi de support à un révisionnisme patent. Le texte utilise l'anecdote comme argument implicite permettant l'identification entre deux situations. Au détour de cette phrase, Céline glisse ainsi le thème non seulement du courage et du sens du commandement de ceux qui collaborèrent, mais encore le fait qu'ils sauvèrent la France de l'anarchie, de la guerre et du chaos. Pétain le premier, mais Céline derrière. La présentation des collaborateurs en défenseurs de la France se nourrit ainsi de l'amalgame des deux guerres. Tout en tournant en ridicule l'image du vainqueur de Verdun, Céline la récupère à son profit et rappelle sans cesse qu'il est médaillé militaire de la Grande Guerre, invalide à 75%, quand c'est pas à 80%, etc. La stratégie satirique, fondée sur un brouillage, permet de gagner sur deux plans différents. En se démarquant de ce dirigeant politique choyé, Céline rappelle son indépendance et se place du côté des pauvres et des victimes. En mentionnant la bravoure et le sens de l'ordre des anciens combattants dont il est, il joue de la confusion entre les deux guerres et brouille la réalité historique d'une collaboration qui, loin de sauver la France, l'a vendue. Pour présenter le rôle de Laval à Sigmaringen, le texte adopte également un mode satirique ambivalent. En effet, il propose une critique antisémite de Laval, mais simultanément, en faisant de lui un pacifiste européen, il développe en sourdine les thèmes de la réhabilitation célinienne. Céline souligne ainsi son indépendance par rapport à Laval. Il dit « Moi qui l'ai traité de tout et de juif et qu'il le savait et qu'il m'en tenait vachement rigueur, que je l'avais traité d'oupin, proclamé partout, je peux parler de lui objectivement. » La haine réciproque et l'antisémitisme prétendent constituer la garantie d'objectivité d'un récit pourtant tout à fait partial. Le brouillage rhétorique consiste encore à associer objectivité et haine. Cette haine suscite logiquement un discours partial, voire délirant. A l'inverse, dans le sophisme célinien, elle se constitue en garantie d'indépendance politique. Alors, comme dans la présentation précédente de Pétain, le narrateur, en citant les propos pacifistes de Laval, combine la satire antisémite de cette figure emblématique du régime de Vichy et la prétendue révision du jugement historique qui porte, enfin sur Laval, hein, du jugement historique qui porte finalement plus sur le cas Céline que sur celui de Laval. Alors, voici comment Céline présente l'attitude de Laval à Sigmaringen, un moment où il apaise une émeute à la gare. Laval était le conciliant né, le conciliateur, et patriote, et pacifiste, moi qui vois que des bouchers partout. Lui, pas. Laval, ce qu'il cherchait, il n'aimait pas Hitler du tout, c'était son temps de paix. L'insistance sur ce pacifisme, ainsi que sur la détestation d'Hitler, participe tout autant de l'écriture d'une contre-histoire que du plaidoyer pro-domo. Ce sont précisément les arguments de Céline pour justifier son adhésion à l'armistice, sinon à la collaboration d'État. Répondant à Madeleine Chapsal au moment du lancement de D'un château l'autre, il reprend d'ailleurs les termes attribués à Laval dans le roman. Alors qu'il est peu probable que Céline ait eu l'entretien avec Laval cité dans D'un château l'autre, il est exact que ce dernier, tous les matins, mettait au point sa défense pour son procès à venir. Donc, les arguments de défense pacifiste répétés dans le texte s'apparentent à ceux que développait effectivement Laval à Sigmaringen, mais le portrait faussé du politique, avançant in fine une plaidoirie de pacifiste, est surtout un double de celui de l'artiste. La satire permet de conjurer réitération de propos antisémites et donc distance à l'encontre de ce dirigeant politique, tout en rappelant le soi-disant pacifisme européen désintéressé de Céline. Ce dernier exemple permet d'avancer encore deux remarques concernant le rapport de Céline à l'histoire. D'une part, dans l'exemple précédent, le lien entre antisémitisme et pacifisme. Céline a toujours soutenu que c'était pour éviter la guerre et défendre la France qu'il avait écrit les pamphlets antisémites. Éviter la guerre, c'était donc la retourner contre les Juifs, et son prétendu pacifisme prend la forme d'un appel à l'extermination dans Bagatelle pour un massacre. On peut le dire autrement. Le pacifisme et l'antisémitisme sont les alliés objectifs d'un nationalisme dévoyé consistant à préférer l'annexion de la France à sa défense. Ou bien encore, ce pacifisme et cet antisémitisme induisent une analyse totalement contestable au terme de laquelle défendre la France, c'est laisser l'Allemagne l'annexer, en pensant qu'avec la fin de la démocratie et la chasse aux Juifs conséquente et consécutive à cette annexion, la France retrouvera sa grandeur et son ordre. Donc, la grandeur et l'ordre se trouvent dans l'asservissement à une autre puissance et dans la traque et la délation de ses propres ressortissants. D'autre part, comme on le voit, dans ses romans, il insère des propos antisémites. Le fait que Laval ne soit pas juif, et qu'en cette occurrence, Céline ne fait que reprendre l'un des ragots de l'Action française, n'empêche pas la violence insupportable de l'attaque. Et je voudrais conclure sur ce point. Le racisme et l'antisémitisme résiduel des derniers romans de Céline constituent une violence faite au lecteur, le mettant de force, à distance. Donc il détruit ou ils détruisent tout rapport de connivence entre auteur et lecteur et y substitue une relation d'affrontement dans laquelle le lecteur doit sans cesse redéfinir ses positions critiques. Mais en redéfinissant sans cesse sa position, le lecteur peut aussi mesurer à certains moments la polysémie et l'ambivalence du texte, y compris sur certains des postulats racistes et antisémites. La trilogie allemande propose donc une histoire faussée de la fin de la Deuxième Guerre, une histoire marquée par le révisionnisme et le négationnisme. Elle déploie aussi une vision fataliste et pessimiste de l'histoire contemporaine. Elle développe enfin une vision poétique de l'histoire dont le désordre est restitué en une poétique du bric et broc. Je vous remercie et je passe tout de suite la parole à Daniel Lindenberg. Alors... Nous saluons l'arrivée d'Yves Pagès. Alors, Daniel Lindenberg, donc, comme j'ai dit, vous êtes historien des idées et essayiste. Vous avez consacré un ouvrage au procès des Lumières. Je pense que c'est votre dernier travail.
Absolument.
Il faut vous parler devant le micro. Et vous aviez aussi travaillé sur les nouveaux réactionnaires. Et en 1990, vous avez travaillé plus particulièrement sur ce que vous avez appelé les années souterraines, c'est-à-dire la période 1937-1947. Donc par rapport à cette réflexion sur l'histoire contemporaine et l'histoire plus ancienne, comment est-ce que vous définiriez le rapport de Céline à l'histoire ?
Je dirais que c'est un rapport qui n'est pas celui d'une philosophie optimiste de l'histoire, le moins qu'on puisse dire. Céline, vous l'avez rappelé, a trempé dans la... C'est effectivement ce qu'on retient souvent aujourd'hui de lui. Mais à mon avis, ce qui n'est pas quand même tout ce qu'il faut retenir, même si c'est... on peut le juger odieux, spectaculaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui, au départ, n'était pas appelé à se voir interrogé sur son rapport, justement, à l'histoire, puisque il entre dans l'histoire, au départ, tardivement, dans l'histoire de la littérature, bien entendu. En 1933, et là, il fait immédiatement date et pas obligatoirement là où on l'attend aujourd'hui. Il faut rappeler qu'un de ses lecteurs les plus fervents à l'époque est le jeune Jean-Paul Sartre, qui, dans sa première œuvre littéraire, à lui-même Sartre, qui est La Nausée, il met en exergue une citation de la pièce de Céline, publié immédiatement après Voyage, qui est l'Église, qui est, dans lesquelles on retrouve déjà un personnage qui s'appelle Bardamu. Je rappellerai que, grosso modo, Céline est considéré jusqu'à peu près à l'époque du Front populaire plutôt comme un écrivain de gauche, à mon avis, ça repose déjà sur des malentendus qu'il se fera lui-même un plaisir de dissiper assez vite. Et à la suite de quelque chose, un épisode que tous les Céliniens, dont je ne fais pas partie, hein, je remercie la BPI de m'avoir invité, mais vraiment, je fais tâche parmi des vrais spécialistes de Céline qui sont là, à la tribune ou dans la salle. Mais il est vrai que moi, ce qui me frappe en tant qu'historien des idées, c'est que souvent on sous-estime, pas tout le monde bien entendu, le fait que c'est pas comme le premier pamphlet n'est pas à proprement parler un pamphlet pacifiste, je parle de mea culpa, mais c'est un pamphlet anti-soviétique, anti-communiste. C'est quand même là qu'il entre de plein pied dans le débat idéologique et politique en 1936, qui n'est pas une année indifférente. Et donc, c'est pas seulement par l'entrée du pacifisme et le refus de la guerre qu'il va donc se faire connaître, devenir antisémite, parce qu'il y a un profond lien quand même. Déjà, on voit dans Mea culpa un lien entre ça pointe son nez, même si c'est pas au centre comme ça sera 2 ans plus tard avec Bagatelle pour un massacre. Ensuite, l'école des cadavres et encore sous l'occupation les beaux draps qui sont effectivement des textes. On en parle souvent, mais la lecture en est insoutenable, hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais ce n'est pas le tout du rapport à l'histoire de Céline, qu'on peut rétrospectivement, au fond, je crois que c'est des voyages, où on peut voir que c'est que Céline est quelqu'un qui, au fond, on pourrait le définir en disant qu'il s'élève contre les idéologies officielles de la Troisième République, justement le progrès, les Lumières, etc. Il y a des énoncés qui sont très durs sur les Lumières, les philosophes, ce qu'ils ont apporté aux populos, c'est-à-dire rien, etc. C'est-à-dire que donc en fait derrière un anti-intellectualisme au sens une méfiance vis-à-vis des intellectuels consacrés. Qui passe évidemment par le débat sur la langue qu'on va, parce que faut rappeler, enfin beaucoup de gens ici le savent, mais que Voyage est un ouvrage qui va beaucoup choquer parmi, disons, l'intelligentsia littéraire, parce qu'à cause justement des transgressions au niveau du langage, mais qui vont être encore accentuées, surtout dans Mort à crédit en 1936. Ou alors là, c'est un déchaînement. Et comme Céline, je crois avoir compris, c'est quand même quelqu'un qui procède souvent par surenchère, hein, par rapport au problème de l'antisémitisme. Plus on va le stigmatiser, et plus il va en remettre se faire haïr. Et donc son rapport est aussi celui, il ne faut pas sous-estimer le fait que, bien que largement autodidacte, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup lu, en particulier, bon, il est nourri de Schopenhauer, de Nietzsche, etc., donc de philosophes qui, depuis la fin du XIXe siècle, sont les lectures tout à fait favorites des gens justement qui récusent les idéologies du progrès, l'idée que l'homme peut s'émanciper par ses propres forces. Céline, à un moment, dit, bien que n'étant pas du tout chrétien, hein, c'est un anti-chrétien, mais il y a quelque chose de vrai dans le thème du péché originel, c'est-à-dire l'homme est un être mauvais qui ne peut pas réellement s'améliorer. Dans son langage, il dit souvent une merde, etc. Enfin, l'homme est une... Donc, il n'y a rien à attendre des idéologies humanitaires, de l'idée qu'on peut, sauf au niveau du biologique, et c'est ça, effectivement, bon, parce que là, ce n'est pas une question que vous m'avez posée, puis c'est une question qui a été traitée, je crois, hier, mais le fait, en tant que médecin, il croit beaucoup à l'homme en tant qu'animal, finalement. Et c'est ça, d'ailleurs, je crois qu'il va le rapprocher des nationaux-socialistes. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même une affinité, même en dehors du problème des Juifs, etc., mais il y a une affinité avec l'idée que la question de la race, la question de ce qu'il y a de plus physique, physiologique dans l'homme est absolument essentiel. Et que donc c'est uniquement par là qu'on peut espérer une amélioration, c'est-à-dire en gros le génisme. Parce qu'en même temps, c'est quand même quelqu'un qui, on a rappelé, je suppose, hier, qu'il a fait sa thèse sur Semmelweis, etc. Il a publié plusieurs articles sur la santé publique en France, dans lesquels il fait des propositions. Quelque part, on pourrait le rattacher à un courant de la médecine sociale. Donc, je pense que, il n'a pas un rapport à l'histoire, mais pour prendre des grandes catégories comme ça philosophiques, il a un rapport à la nature de l'homme, etc. Là, il a un vrai rapport. Mais dans l'histoire, au fond, il ne se passe rien. C'est toujours la même chose. On est toujours je passe sous le contrôle des spécialistes. Je crois que c'est dans l'école des cadavres. Il finira par dire que l'histoire de France a déraillé. Au moment du traité de Verdun en 843, c'est-à-dire qu'on a manqué le coche en 843, imaginez quand même, de faire une véritable union franco-allemande, qui reste toujours d'actualité parce que les Français sont des celto-germains, etc. Enfin, si vous voulez, par rapport à ce qui est dit sur Céline, moi j'ai constaté là. Pour terminer, je dirais, pour préparer cette intervention auquel je m'attendais pas du tout, etc. Donc j'ai été dans les bibliothèques comme la BNF ou la bibliothèque de la rue d'Ulm. J'ai constaté que, par exemple, par rapport justement à un auteur comme Sartre, les rayons Céline sont bien plus fournis. Il n'y a pas la littérature sur Céline est tout à fait exponentielle. Et donc, je crois que... je ne sais plus ce que je voulais
dire. Je pense que vous vouliez dire ce que vous soutenez à la fin de votre ouvrage, qui est qu'il y a quand même une réhabilitation plutôt d'un certain nombre d'écrivains qui ont collaboré plutôt que les écrivains résistants comme Sartre.
Comme Sartre ?
Comme Sartre.
Vous êtes sûr que c'est un écrivain ? C'est un écrivain qui... l'honnêteté oblige à dire que Sartre, effectivement, a été lié pendant la guerre à des écrivains qui résistaient. Lui-même a fait une résistance tout à fait intellectuelle. Moi, je crois que moi, je suis un grand admirateur de Sartre par ailleurs. Je voulais dire simplement que la réhabilitation de Céline, comme celle de Drieu-La Rochelle. Je ne la mets pas, si vous voulez, je ne l'oppose pas au discrédit des écrivains résistants, qui de toute façon ont été assez peu nombreux. Il y a eu beaucoup plus, il suffit de lire des ouvrages érudits comme celui de Gisèle Sapiro, pour voir que le nombre d'hommes de lettres qui ont collaboré qui ont été pétainistes, qui n'est pas forcément la même chose, et qui ont été attentistes, ça c'est la grande majorité, qui n'ont été ni l'un ni l'autre, fait que simplement depuis une trentaine d'années, moi ce qui me frappe à propos de Céline, et c'est justement j'ai retrouvé mon propos, c'est que on emploie toujours à propos de ses écrits politiques le terme de délire. Mon avis, c'est pas quelqu'un qui délire ou ses délires sont tout à fait contrôlés. C'est quelqu'un qui, à ma lecture, on peut lui en opposer d'autres, qui a dit ce qu'il voulait dire et qui simplement, après 1945, au moment où, d'abord, il a peur, il a eu peur même d'être qu'on lui fasse un procès, s'il n'avait pas quitté d'être fusillé, etc. Finalement, il a fini par rentrer et il a fini donc par adopter une stratégie qui est celle de se poser en victime. Ça, il a été extrêmement virtuose. Il faut dire que il n'y a pas beaucoup d'autres exemples. Il y a eu d'autres écrivains collaborateurs, qui simplement ont dit, en gros, certains ont dit j'avais tort. D'autres ont dit « j'avais raison et j'ai toujours raison », etc. Céline a continué à distiller le même discours. En réalité, il y a toujours un discours souterrain. Je me souviens d'un article de Philippe Watts dans Esprit, puisque si j'ai publié sur Céline, c'est dans la revue Esprit, avec des gens beaucoup plus férus que moi, comme Philippe Roussin. Mais Philippe Watts, donc, qui est un universitaire anglo-saxon, a fait une étude extrêmement intéressante sur Céline et le négationnisme, où il montre qu'en fait, Céline est un des premiers négationnistes, qu'il a servi de caution aux négationnistes qui sont proprement dits, qui sont venus après la Deuxième Guerre mondiale, et que donc il n'a pas changé d'idée. Simplement, il a ajouté quelque chose qui est de recycler son anti-intellectualisme, y compris en mordant la main qui la nourrit, par exemple Gallimard. Il y a des injures sur la NRF sur Gallimard, alors quand même que Gallimard a fait Paulhan, Gaston Gallimard, qu'il appelle Gallimard 2, etc., ont fait beaucoup pour le remettre dans le circuit, pour rééditer. En gros, dès qu'il y a eu une amnistie, 1952-53, on a recommencé à rééditer les œuvres de Céline, sauf évidemment les pamphlets.
Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à Jean-Pierre Martin, qui, je pense, peut-être reviendra sur, peut-être sur certains propos de Daniel Lindenberg. Donc, j'ai présenté Jean-Pierre Martin en disant qu'il était écrivain, essayiste, et puis professeur, évidemment, de littérature contemporaine à l'Université de Lyon 2. Il est également membre de l'Institut universitaire de France. Il est connu pour être un important biographe et commentateur de l'œuvre de Michaud. Il a publié récemment un éloge de l'apostat, sous-titré ou dont le titre complet est « Essai sur la Vita Nova ». Je sais que vous préparez pour Gallimard un essai intitulé « Que nos losophes » et que vous venez de publier un roman qui s'appelle « Liaison ferroviaire ». Alors, je sais que vous voudriez d'abord présenter un texte que vous avez élaboré.
Oui, voilà, que j'ai fait exceptionnellement à cette occasion. Cette occasion particulière. Enfin, nous pouvons tirer un trait, admirer Céline sans aucune arrière-pensée. L'antisémitisme a été définitivement éradiqué. Cette bêtise grégaire n'est plus qu'un mauvais souvenir. Elle semble même étrange vu d'aujourd'hui. Les pamphlets, réédités depuis quelques 40 ans, semblent venir d'une autre planète. Nous pouvons enfin, maintenant, lire avec sérénité l'écrivain génial qui a jazzé, désacadémisé, révolutionné la langue de la littérature française. D'ailleurs, la littérature interplanétaire ne se préoccupe plus guère de la petite histoire ancienne des hommes. Dans nos fêtes du livre intergalactique et fluidique, le texte s'imprime directement dans nos systèmes nerveux grâce à une pastille spéciale. Malgré la résistance de certains, nous avons introduit des écrivains de Mars qui, ma foi, font bonne figure à côté de Proust, Céline, Joyce, Kafka, Michaud, Proust, Ponge, Queneau, Sandrars, Duras, j'en oublie. Et la fin de l'histoire a été décrétée en 2045. On ne perçoit plus que la musique dans les lettres. Souvenez-vous, en 2011, une fois de plus, la fête avait été troublée. On pouvait croire les esprits apaisés. Eh bien non, nous n'avions pu commémorer Céline comme il le méritait, en toute sérénité. Chacun voulait jouer son rôle. Chacun y allait de son mot. La question semblait inépuisable. Les uns avaient décidé, une bonne fois pour toutes, de ne pas lire Céline. Les autres se délectaient de tout, sans distinction. Céline divisait, semble-t-il, encore la France en deux, bien que ce fût beaucoup plus compliqué. Moi-même, encore bien jeune à l'époque, en 2011. Moi-même, qui aimais tant son invention verbale, et depuis longtemps, je m'étais d'abord cru obligé de rappeler des mots qui fâchent. J'avais encore le sang chaud en ce temps-là, sur certaines questions. Deux sensibilités en moi se faisaient encore face, deux regards, deux mémoires. D'un côté, une sensibilité littéraire me faisait aimer sans partage Le Voyage et d'autres livres. De l'autre, une sensibilité historique continuait de freiner mon admiration à l'égard d'une autre partie de l'œuvre. La mémoire historique m'avait même joué un sale tour, dans mon enfance enflammée. Elle m'avait fait écrire un brûlot, au titre coup de poing, contre Céline, cependant nuancé par le sous-titre, ou d'une gêne persistante exercée à l'égard de la fascination de Louis des Touches sur papier bible, qui m'avait valu l'honneur d'être insulté par Rivarol, mais aussi la surprise naïve d'être la cible d'autres sélinolâtres plus inattendus. Je pouvais pourtant consacrer des heures à montrer à des étudiants la force du texte de Céline, la paternité de Toulouse, l'avortée du cinquième, d'autres textes, de Guignol's Band, etc. Bien, et tout cela sans rien cacher de son rapport à l'histoire ou des textes méprisables. Depuis, je n'avais jamais répondu à aucun insulteur, quel qu'il fût. Je n'avais pas été invité à quelques colloques Céline que ce fût. Je ne voulais m'enfermer dans aucun rôle. Et pourtant, évidemment, vous êtes très vite dans ces conditions étiquetées. Et voilà qu'on m'invitait, et je vous remercie, à un colloque du cinquantenaire. En 2011, lors du cinquantenaire, j'étais un peu las des jeux de rôle, fatigué des sempiternelles discussions sans issue. J'aurais aimé n'y évoquer que le Céline qui m'est cher, son chat Bébert pour lequel j'éprouve de la tendresse. J'aurais aimé le lire comme Fabrice Lucchini, tenez, moins bien que lui, évidemment. Hein. Mais j'aurais essayé, allez, après tout. Et voilà que la table ronde s'intitulait « Céline et l'histoire ». Moi qui n'ai cessé de m'insurger contre les disques rayés, allais-je persister à tenir bon sur certains points, à rappeler que Céline, antisémite prosélyte, avant, pendant et après les camps d'extermination, c'est quand même pas tout à fait comme Voltaire et Shakespeare, qu'il y avait là une petite particularité tout de même liée à son temps, qu'il n'avait pas eu de chance au fond, que d'autres l'avaient pris au mot. On était encore en 2011. Il faut bien mesurer la chose. C'était une époque où les pamphlets n'étaient pas encore réédités. L'œuvre en somme était édulcorée. On en parlait souvent par on dit. Il aurait fallu avoir tout le dossier, sous les yeux, l'intégrale. J'avais donc médité mon intervention en 2011, soigneusement pesé mes mots. Au regard de l'histoire, prévoyais-je de dire dans une première version, sachant combien déjà cette expression « au regard de l'histoire » était en elle-même contestable aux yeux des turiféraires inconditionnels. Au regard de l'histoire, donc, le cas Céline, pensais-je dire, était à la fois singulier et représentatif. De son temps, l'aveuglement politique des écrivains avait été une maladie banale. Pouvait-on pour autant mettre tout le monde dans le même sac, aligner des noms tels que Aragon, Drieux, Vaillant, Morand, bien d'autres, qui avaient pris la politique comme un territoire d'exaltation ou un exutoire à leurs fantasmes. Tous ces aveuglements, qui étaient comme une spécialité française, n'étaient pas de même nature. La responsabilité historique d'un écrivain, disais-je en 2011, ne se mesure pas à son degré d'allégeance ou d'adhésion à un parti, mais plutôt à la façon dont il s'est fait le porte-voix auprès d'un public qui dépasse largement le cercle des amateurs de littérature, le porte-voix des idées barbares et totalitaires de son temps, à la façon dont il leur a conféré une légitimité littéraire, à la façon dont ses propres fantasmes se sont nourris des fantasmes grégaires et les ont réactivés, à son impuissance à penser ce vertige, ou à sa capacité, au contraire, à se raviser. Je me proposais de réfléchir à la phrase d'Orwell. Les intellectuels sont plus portés que les gens ordinaires au totalitarisme. Et à cette autre phrase de Hannah Arendt, le mensonge est plus fort que la vérité car il comble notre attente. Ce qu'il y avait de particulier chez Céline, c'était son acharnement à enfoncer le clou, la constance, l'obsession, la fixité, le polémos, au contraire d'un Blanchot par exemple, qui revint sur ses positions antisémites de l'avant-guerre au point d'affirmer que l'antisémitisme reste la faute capitale. Entre 1941 et 1961, il n'avait guère bougé, c'était ma première version. À l'entrée de l'Allemagne en guerre contre l'Union soviétique, en juin 1941, il avait déclaré, pour devenir collaborationniste, « j'ai pas attendu que la commandanture pavoise au crayon ». On n'y pense pas, c'est cette protection de la race blanche. C'est maintenant qu'il faut agir, parce que demain, il sera trop tard. Au printemps 1961, il s'intéressait à la biographie de Vacher de la Pouge, théoricien de l'inégalité des races, dans la lignée de Gobineau. Plus offensif encore que ces derniers, séliniste avant l'heure, partisan d'un racisme biologique. Quelques mois auparavant, il avait été en quête d'informations dans une lettre adressée à l'ancien colonel SS Bickler, responsable des renseignements politiques pour l'Europe occidentale, auquel il avait été lié pendant la guerre, au sujet de la création, au sujet de la création à Bonn, d'un centre historique visant à démontrer qu'il n'y aurait jamais eu de chambre à gaz à Buchenwald, Dachau, etc., ni nulle part en Allemagne. Il n'avait ainsi rien lâché d'un pouce, rien renié, réaffirmant dans des textes d'une grande qualité littéraire, tels que Rigaudon, sa phobie du métissage, continuant de façon cryptée, ainsi l'intervieweur imaginaire que Céline invente dans ses très beaux entretiens et très drôles avec lui-même, où il parle du style, où il déclare que les idées, les messages ne m'intéressent pas, eh bien cet intervieweur imaginaire se nomme le professeur Y. On peut gloser des tas de pages sur ça se fait beaucoup, mais je ne vois pas pourquoi ce Y, bah X, etc., sinon comme initial de Youtre, Yitre ou Youpin, qualificatif des pamphlets de la prose d'extrême droite dans les années 30, on ne peut plus le dire ouvertement, mais on le met dans le titre, sous forme d'initial. Pouvait-on entièrement oublier tout cela en 2011 et rire sans aucune arrière-pensée? Je tenais surtout à dire que pour réfléchir à cette question, il fallait faire connaître Céline, l'étudier, tout publier, ne rien censurer, faire aimer et comprendre son style, mais aussi ne pas arrêter de se poser la question insoluble, ne pas y répondre à la légère, ne pas faire comme si le mariage entre l'abject et le sublime, entre la grandeur et la bassesse, était un mariage de naturel. La question centrale, au fond, étant comment l'histoire passée continue-t-elle à produire du présent? L'enjeu concernant aussi notre rapport à nous, lecteurs, notre rapport à nous au texte, à chacun de nous, au texte et aussi à l'histoire. Je lis à ce propos dans le Monde juste d'hier, Serge Dubrovski, interviewé par Michel Conta, Serge Dubrovski, 83 ans, disant sur Céline, il a beaucoup compté, il compte encore beaucoup pour ma langue écrite. J'aime beaucoup Dubrovski, c'est pour ça que j'aime le citer aussi. Et il y a quelque chose de célinien dans son écriture, très belle. Mais que voulez-vous que je fasse, moi, juif, que voulez-vous que je fasse d'un écrivain qui voulait mon extermination? Si je n'ai pas été gazé à Auschwitz, c'est malgré Céline. Il me semble que, même en tant que non-juif, on ne peut être indifférent à cette réaction. Bref, le XXe siècle et sa kyrielle d'aveuglés étaient présents encore au début du XXIe siècle. Et en moi-même, je le regrettais. J'aspirais à un autre temps, à une autre époque, qui nous épargnerait des polémiques inutiles où chacun campe sur ses positions. J'aurais cru bon de dire, dans cette version, qu'il suffisait de lire tout Céline pour se faire une opinion, qu'il fallait aussi lire d'excellents travaux critiques et historiques, parus particulièrement depuis les années 1990. Je vais en oublier, mais enfin bon, ceux d'Yves Pagès, de Marie Hartmann, d'André Derval, de Régis Etamanzi, d'Alice Kaplan, de Philippe Roussin, j'en oublie, d'Annick Durafour, etc., de Marie-Christine Bellosta, et j'en oublie bien sûr beaucoup. Empêcher la lecture historique et politique de Céline, c'est exercer une autre forme de censure. Après quoi, dans cette version, je me serais entendu citer Pasolini, Pier Paolo Pasolini, très remonté contre la célinonatrie française, qui écrivait à son propos en 1974 « L'admiration inconditionnelle est devenue un lieu commun ». J'aurais aussi cité Vercors, « Un écrit publié est un acte de la pensée ». L'écrivain est responsable des conséquences de cet acte. Et enfin, Julien Gracq, il y a dans Céline un homme qui s'est mis en marche derrière son clairon. J'ai le sentiment que ses dons exceptionnels de vociférateur, auxquels il était incapable de résister, l'entraîneraient inflexiblement vers les thèmes à haute teneur de risque. les thèmes paniques, obsidionaux, frénétiques, parmi lesquels l'antisémitisme, électivement, était fait pour l'aspirer. Le drame que peuvent faire naître chez un artiste les exigences de l'instrument qu'il a reçu en don, exigences qui sont, parfois à demi monstrueuses, avant tout celles de son plein emploi, a dû se jouer ici dans toute son ampleur. Quiconque a reçu en cadeau, pour son malheur, la flûte du preneur de rats, on l'empêchera difficilement de mener les enfants à la rivière. Telle était ma première version. Et puis je m'étais finalement dit, à quoi bon rappeler tout ça? Est-ce possible, dans cette atmosphère encore enfiévrée, voire hystérique, genre bataille d'Hernani, de réfléchir froidement à la chose? Chacun a son idée. On ne convaincra personne. Surtout pas ceux qui éprouvent empathie ou fascination pour un héros et un martyr de la solitude. Alors j'avais écrit une seconde version où je faisais mourir Céline en 1937, juste avant les bagatelles pour un massacre. Et je m'en sortais très bien de cette façon. Il nous manquait quelques chefs-d'œuvre, je le reconnais. Mais on avait déjà un grand écrivain, un très grand écrivain. Et la mémoire historique n'avait plus rien à redire. Le débat était quasiment clos. Mais tout cela, c'était en 2011. De merci, nous sommes aujourd'hui en 2061. Et je peux dire enfin, sans aucune réticence, à l'occasion du centenaire, en présence des quelques martiens qui nous ont fait l'honneur de venir, toute mon admiration pour ce grand écrivain qui a creusé au cœur de la condition et de l'espèce humaine.
Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à Yves Pagès, donc, qui est romancier, éditeur et essayiste, et dont l'ouvrage consacré à Céline, qui s'appelle « Les fictions du politique », est reparu donc, en collection telle Gallimard. Alors, est-ce que vous voulez réagir directement à ce qui a été dit? Ou
oui,
peut-être
bah, ce que je peux faire, parce que je n'ai pas préparé de texte, mais j'étais sensible au... à tout le millefeuille de l'ironie du précédent. Non, mais je peux dire un peu du rapport à l'histoire, oui. De comment j'envisage les choses, mm-hmm. et finir peut-être en disant un peu mon sentiment sur les sujets qui fâchent, qui ont été soulevés de diverses manières.
En tout cas, on peut commencer par le rapport à l'histoire, puisque je pense que vous en avez une autre lecture que celles qui ont été présentées.
Oui, en essayant un peu que ce soit un peu dire, en lien avec ce qui a été dit jusqu'ici. Bah, moi, c'est vrai que je pense que Céline, c'est vraiment un écrivain qui a un rapport à l'histoire fort, énorme, dans la structuration de son imaginaire. Moi, j'ai supposé dans l'ensemble de mon travail d'analyse sur Céline que tout quasiment provient dans son œuvre d'une imprégnation, disons, de l'époque, des débats d'idées, de l'imaginaire, de tout, des objets, des techniques, etc., de la Belle Époque. Et avec autre chose, le moment de 14-18, ce moment de très particulier, hein, et non pas seulement sur le front, mais beaucoup plus à l'arrière, ce moment de mobilisation des corps, de changement des rapports entre sexes, qui change tout, et en particulier le rapport à la technique, est un moment, on va dire, là, non pas de nostalgie comme pour la Belle Époque, mais un moment de crispation traumatique pour lui, qui a figé... Tout son rapport au reste. C'est-à-dire que moi, je pense que globalement, Céline, ensuite, a vécu les années 20, les années 30, les années 40 et les années 50 à travers des lunettes dont tous les référents quasiment n'étaient que des référents liés à la Belle Époque et à ce qui s'était passé en 14-18 et à cette économie de guerre. Je pense que on peut quasiment tout voir, et y compris les mutilés dans l'Allemagne qui est traversée dans la trilogie. C'est le rapport qu'il a par rapport à ces 1,5 million d'éclopés mutilés à qui on a mis des prothèses et qu'on a obligé à retourner au travail en 1915-1916, puisque les campagnes à ce moment-là de la droite et de la gauche française mobilisées dans l'Union sacrée étaient le problème du retour au travail des mutilés. Sinon, ils vont avoir une mentalité d'assisté, comme quoi les questions politiques sont toujours présentes sur le problème de l'assistanat. Je pense donc que le rapport à l'histoire de ce point de vue-là, donc, pour le dire autrement, est un rapport donc tordu. Est un rapport, un prisme déformant. Mais c'est ça qu'on demande à un écrivain. On ne demande pas à un écrivain d'être ni Michel Foucault, ni un écrivain, alors un historien d'une autre tendance, des annales, ou alors un historien. On ne lui demande pas d'être un historien qui cherche la vérité, on lui demande justement, dans son rapport à l'histoire, d'avoir, comme un point de départ, mais qui est un point de départ, je dirais, qui est pour reprendre sa métaphore souvent reprise, qui n'est pas une métaphore sur le style pour moi, mais une métaphore sur réellement son rapport à l'histoire, le bâton tordu. Donc ça, c'est un premier rapport. Moi, c'est vrai qu'ensuite, en travaillant sur pas mal d'ouvrages de Céline, je parle des fictions là seulement, ce que je trouve frappant, c'est que, comme tous les grands poètes et les grands romanciers aussi, il a des intuitions à travers cette hypothèse fausse. Hein, c'est-à-dire que quand, finalement, il lit les usines Ford, il lit le rapport aux malades, aux l'utilisation et l'emploi des accidentés du travail aux usines Ford, il le lit, y compris dans son rapport qu'il fait pour la SDN, et dans son bouquin, comme le centre et l'épicentre de la pensée du fordisme, ça ne tient pas debout. Hein. C'est pas ça, le fordisme. Hein. Mais cette analyse qui vient, là encore, de son traumatisme lié au rapport du travail avec les blessés de guerre, qui est quelque chose qui, visiblement, à l'époque, c'est-à-dire pendant la guerre de 14-18, au moment où naissait sa vocation médicale, puisque sa vocation médicale vient du fait qu'il est resté longtemps à l'hôpital comme blessé, sa vocation médicale, elle vient en grande partie de là. Hein. Et donc, de ce point de vue-là, en empathie avec les gens qu'on remettait au travail, à qui on foutait des prothèses. Merci, monsieur Jules Amar, qui mettait des prothèses et qui, par ailleurs, était l'introducteur du taylorisme en France. Eh bien, finalement, là, on sent qu'il y a une vraie empathie pour ces gens qu'on refoutait au travail et tout ça, et qui lui permettent d'écrire ces pages satiriques extraordinaires sur ce qu'est le machinisme, avec des intuitions. Trouvez-moi beaucoup de livres à cette époque-là dans l'histoire de la littérature qui font une satire du machinisme fordien, c'est-à-dire du deuxième stade du taylorisme, et qui le font avec une intelligence poétique, mais une intelligence poétique qui a aussi des éclairs de lucidité sur ce qu'est la forme du travail à la chaîne qui va devenir la forme dominante pendant 50 ans au XXe siècle. Et c'est aussi ça qu'on demande à un auteur. C'est aussi d'avoir des intuitions folles, qui viennent d'hypothèses au départ, qui peuvent être de postulats, qui sont faux parfois, mais qui lui permettent quand même d'avoir ce génie imaginaire, mais qui aussi parfois porte des diagnostics sur le réel qui sont foudroyants. Donc moi, incontestablement, et depuis le départ, depuis ma première lecture du voyage, moi je cherche aussi, outre la petite musique, je cherche aussi ça chez Céline, je le cherche, c'est-à-dire je cherche à comprendre pourquoi j'y ai vu en effet, incontestablement, puisque j'ai beaucoup travaillé là-dessus, les traces d'une sensibilité libertaire, les traces de je n'emploierai même plus le mot libertaire aujourd'hui, parce que je crois qu'il y a un contresens idéologique qui naît très vite. C'est-à-dire, il y a chez lui une pensée anti-autoritaire, une pensée réfractaire à la discipline, une pensée réfractaire, etc. Et cette intuition-là, je trouve que parfois, et jusque dans les livres de la trilogie allemande, il y a des intuitions. Moi, je suis désolé, dans beaucoup de passages de la trilogie allemande, où incontestablement, le serpent de mer, jamais repenti de la haine du métissage, de toute sa pensée racialiste, de tout son décadentisme, tout ça. Enfin, alors ça y est, de façon explicite, donc on peut pas le nier déjà. Mais moi, je dis que derrière, et je ferai référence, pour moi, ce qui est dans les plus belles pages de toute l'œuvre de Céline, c'est-à-dire l'épisode dans la trilogie allemande, qui dure 15 pages, des petits gamins trisomiques ou plus ou moins débiles qui sont cheminés par un truc de la Croix-Rouge et on n'arrive même plus à les compter et qui se baladent comme ça et qui sont des moments tout simplement extraordinaires. Quel autre écrivain français a écrit, et ça parcourt toute l'œuvre de Céline dans Mort à crédit, qui a écrit sur l'autisme, la débilité, les arriérés génétiques, etc. Qui a écrit les pages les plus bouleversantes sur eux, tout en ayant les pires préjugés eugénistes, racialistes, etc., qui sont explicitement présents, y compris là, 4 pages avant. Hein, donc je ne le nie pas. Donc moi, j'ai eu dans tout mon travail, et que j'ai un peu mis ça de côté, je vous avoue, hein, c'est la première fois que je reparle de Céline en public, hein, depuis 20 ans. Donc, parce que Céline, c'est... Hein, heureusement qu'il y a, je tiens à le préciser de façon liminaire, beaucoup d'autres très très grands écrivains en France. Hein. C'est-à-dire, toute personne qui me dit il y a que Céline comme grand écrivain français au XXe siècle, moi d'emblée je change de côté du comptoir du café. Hein. Moi ça me fatigue. Alors il y a cette chose-là qui est toujours pour moi voilà la complexité. J'ai essayé l'autre jour dans le magazine littéraire de mettre le point sur un autre truc qui est moi le point pour moi le plus foudroyant, hein, c'est-à-dire, et puis là on va quand même venir au sujet qui fâche, le plus foudroyant pour moi qui est, bon, Céline, en 1936, bon, elle est très vexée parce qu'on n'a pas compris que Mort à crédit c'était un grand livre, et que particulièrement la critique de gauche n'y a rien compris, honte à la critique de gauche, nul. Parce que dans ce roman, Mort à crédit, là encore, il y a une intuition historique, mais là, qui est carrément géniale. C'est un roman qui démontre que le XXe siècle finit en 1914. Le XIXe siècle finit en 1914. Il y a des historiens qui ont mis très longtemps à s'en apercevoir. C'est un truc sur l'histoire du scientisme et de l'utopie du XIXe siècle, etc., que, bon, quand Philippe Muret était quelqu'un de sérieux, il bossait sur ces choses-là, avant qu'il devienne un néo-réac, mais là, c'est votre spécialité, c'est pas la mienne, eh ben, c'était donc... voilà, c'est une intuition qui est complète. Il y a une intuition historique, de ce point de vue-là, absolument géniale dans Mort à crédit, qui est pour moi l'un des plus grands romans sur les tentations à la fois fourriéristes ou Auguste Comtienne, qui sont la tension, véritablement, du XIXe siècle. Et c'est un roman génial là-dessus, sur l'histoire des idées. Je ne supporte pas qu'on traite Céline comme une bête à style et comme un débile mental. Céline est extrêmement intelligent, s'est imprégné d'énormément de matériaux, est un autodidacte si on veut, mais enfin, à partir du moment où 1915, il a plus eu que ça à foutre que bouquiner, il a bouquiné comme un... C'est monstrueux ce qu'il a bouquiné. Donc, il y a beaucoup d'idées là-dedans. Tout son matériau est, entre autres, de l'idéologie, l'histoire des techniques, l'histoire, enfin bon. Sur ce point précis, mais je suis très bavard, donc il faut que je m'arrête vite. Sur un point précis, à partir de 1936, on s'en fout du dépit psychologique du bonhomme. Hein. Moi, je dis clairement, le bonhomme, il est roublard, radin, aigri, voyeur, chiant. On s'en fout, les trois quarts des écrivains sont insupportables, c'est pas la question. Ça change rien, ça. Tous les procès psychologiques aux auteurs sont insupportables. Mais, donc on comprendra jamais pourquoi, à ce moment-là, il déraille. Pour moi, il ne déraille pas à mea culpa. Mea culpa fait encore partie, pour moi, d'un pamphlet où, mot pour mot, pour moi, c'est à la fois une critique anticommuniste du soviétisme qui peut être... Alors, il y a des gens qui me démontreront qu'elle est déjà antisémite, etc. Pour moi, mot pour mot, il n'y a pas un mot qui ne pourrait pas être sur une critique de gauche du bolchevisme dedans. La critique qu'il fait de l'Union soviétique, c'est finalement Lénine... Il a fait le fordisme en plus grand, et en plus, malheureusement, juste on peut le dire, parce que maintenant on a les connaissances historiques pour le savoir, c'était vrai. Parce que les techniciens tayloriens et tout ça, américains, ils venaient, et Lénine était fasciné par le taylorisme américain. Donc c'est vrai. Bon, ensuite, il y a d'autres choses. Pour moi, je veux dire, il faut être hyper clair. C'est-à-dire, Céline a choisi ou tout simplement subi le fait qu'il n'y arrivait plus, hypothèse rarement énoncée, qui n'arrivait plus à en faire une troisième de fiction. Qui n'arrivait plus, il était en panne, il était coincé, il était mal. Il y avait ce Guignol's Band qu'il avait envie de faire, mais il n'y arrivait pas. On peut en discuter. Enfin bon, qui s'appelait peut-être pas. Hein. Et puis il y avait Casse-Pipe maintenant. Bon, Casse-Pipe qui est quand même pas le plus grand. Hein. S'il avait écrit Casse-Pipe, on ne serait pas là tous à en parler quand même. Alors, il y a une crise pour moi. Et à ce moment-là, il faut être très clair, en 1937, et il y a, je le concède encore dans Bagatelle pour un massacre, des choses qui sont de l'ordre de l'imaginaire, de la fiction, tout ce qui touche à l'Angleterre, même ce qui touche à son voyage en Russie, etc. On peut sauver des choses, on est d'accord. Pour le reste, il y a quand même un homme qui prend la décision de recopier mot pour mot, en mettant dans le dictionnaire des synonymes Youtre et Youpin à la place de Juif, des brochures de propagande. C'est une infamie pour un écrivain, quand même, de faire ça. Et l'infamie, pour moi, elle est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Il est rentré dans de l'écriture politique de circonstance pour celui qui, à la naissance de Voyage au bout de la nuit dans le premier chapitre, nous avait quand même expliqué que celui qui parle de la race française, c'est du toc, et celui qui se prétend anarchiste vantard, et qui d'ailleurs va s'engager 5 minutes après, c'est vantardise, roublard et tac au tac et compagnie. Il avait mis les pendules à l'heure là-dessus. Il avait dit, moi, les idéologies, pour moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de regarder l'histoire et le monde, et même l'anarchisme, qui d'une certaine manière pourrait paraître plus rebelle, plus sympa, même ça, c'est de la vantardise. Et qu'est-ce qu'il fait en 37? Il se met, non pas au service, moi je veux pas dire qu'il se met au service de la commandanture, Hein, mais il sait pas, c'est, ça serait un anachronisme. Mais il faut être hyper clair. En 1937, quand il commence là-dedans et qu'il continue avec l'école des cadavres que je n'ai jamais pu finir, moi je l'avoue, je peux pas lire ce livre. C'est ignoble. Moi, le racialisme à l'état pur, la craniologie, ça me dégoûte. Bon, oui, oui, mais vous êtes allé arriver jusqu'au bout, mais moi je peux pas. C'est physique aussi. On n'a qu'une vie, on peut pas tout lire. Alors, c'est vrai que à partir de ce moment-là, il a fait un choix qui est un choix dont on peut dire deux choses. Un, il n'y avait aucun anticonformisme dedans. Entre 1937 et 1939, dégueuler sur non seulement les Juifs, il n'y a pas que les Juifs non plus là-dedans, hein, sur les PD, les surréalistes, les métèques, enfin tout ce qui bouge quoi, quand même en dessous de Poitiers, hein, aussi. Alors, dégueuler sur tout ça, c'est-à-dire une xénophobie, bon, délirante ou pas, c'est une question, j'en sais rien, mais en tout cas, elle est à ce moment-là, malheureusement, le ventre mou de l'intelligentsia française. C'est pour ça que Gide, ça le fait rigoler. Parce que c'est dans l'air du temps. Donc, il y a quand même là un mensonge intellectuel qui est de nous faire croire ce qu'il a fait, mais que même, y compris des gens très sympas, croient au premier degré, qui est de croire qu'en fait, c'était un peu anticonformiste, et puis c'est... ensuite, il n'a pas vraiment été collabo, puis il n'a pas vraiment été fasciste, puis il n'a pas été vraiment ceci, puis après, il a été super victime, c'est super dur pour lui, il a été super exilé, tout ça. Non. Je veux dire, il faut quand même dire les choses. Il a fait un choix, et le choix, c'est de devenir un écrivain mercenaire d'une xénophobie ambiante qui était, comment dire, on va dire, se mettre du côté du manche. C'est ça, la vérité historique. En 1941, à mon avis, il a commencé à paniquer d'être du côté du manche. Puis, on le sait, il s'est mis à réécrire de la fiction. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il avait vendu son âme d'écrivain en devenant une plume mercenaire. Et à ce moment-là, incontestablement, il écrit Guignol's Band. On peut s'empailler toute la vie, mais si on relit Guignol's Band, franchement, dedans, il n'y a que des métèques, des youtres, des bohèmes apatrides. Et on peut tout me démontrer qu'il y en a certains qui sont caricaturés de façon antisémite. Mais enfin, il y en a quand même, en particulier Clodovitz, qui est le portrait double de l'auteur. Clodo, Clovis et Youtron Clodovitz. Ça, c'est, on peut quand même dire que c'est quand même pas un personnage pour lequel il a une certaine antipathie dans empathie dans le bouquin. Donc, pour moi, incontestablement, au même moment où il développe les choses les plus ignominieuses, c'est-à-dire il devient un idéologue dans ses écrits, ça fait partie de son œuvre, il ne pourra jamais le renier. C'est pas ses idées privées politiques qu'on critique comme on peut le faire chez certains auteurs. C'est un tiers de son œuvre, c'est là, c'est ses droits d'auteur, ça a été un livre à succès, ses pamphlets ont très bien marché, etc. Donc ça, il doit l'assumer et jusqu'au bout, et sans faire le géniard et le pleurnichard comme il a fait tout le reste de sa vie en faisant le clodo à Meudon. Hein, et ça, moi, ça m'insupporte totalement. Donc je ne peux pas supporter ce discours-là, mais par contre, incontestablement, en 1944, moi, je trouve que c'est là, l'énigme est totale pour moi, c'est-à-dire l'énigme de cette puissance d'ambivalence dans le rapport à l'histoire, aux idéologies et à son rapport au monde et au réel. Bah, je suis désolé, il venait de développer les pires idées eugénistes, etc. Et il nous fait, pour moi, véritablement l'opéra de Katsu, des gueux apatrides, du ghetto de juifs, de l'East End, de Londres. Les bras m'en tombent.
Monsieur Pagès, voilà. Est-ce qu'on peut rester sur cette ambivalence et ce don d'équivoque ? D'accord. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour donner un peu de temps aux questions dans la salle. Je voudrais dire un dernier mot, c'est que ces questions, il faudrait qu'elles soient courtes, parce qu'ensuite, je vais m'entretenir avec Monsieur Delfeuille de Thon. Hein, donc... essayer voilà. De poser des questions auxquelles on puisse répondre rapidement.
Voilà, et ensuite la projection qui est présentée ici, la projection audiovisuelle débutera à 15h30.
Bien, moi je voulais reprendre un peu toutes les interventions, mais je ne peux pas le faire puisqu'on me demande de poser des questions courtes. En tant que bon défenseur des droits de l'homme, hein, je suis membre d'Amnesty International depuis 32 ans, c'est pas une organisation réputée antisémite, et en tant que membre de la Société d'études sélinienne depuis 22 ans, je suis un peu gêné là dans ce que j'entends, parce que je partage des idées de ce Céline qui pose ce problème un peu insoluble d'être à la fois cet écrivain et cet antisémite. Mais ce qui me gêne, c'est qui c'est la kyrielle d'aveuglés qui lisent Céline sans rien voir de tout cela. où ils sont. Moi, je me sens visé. Est-ce que je fais partie de cette querelle d'aveuglés parce que j'aime Céline, malgré ses contradictions? Depuis 22 ans que je suis à la Société d'études céliniennes, je n'ai jamais entendu aucun propos antisémite. J'ai vu quelqu'un se faire exclure de la Société d'études céliniennes parce qu'il avait tenu des propos qui n'étaient même pas antisémites, mais un petit peu douteux sur la guerre. Voilà, qui est-ce que vous visez, Monsieur Martin? C'est ça qui me gêne. En même temps, je suis d'accord avec vous, mais qui visez-vous? Est-ce qu'il y a, à part les vieux collaborationnistes qui n'existent plus nulle part ou qui ont 100 ans, qui visez-vous?
Je crois qu'il y a une maldonne sur l'expression « kyrielle d'aveuglés ». Je visais la... je faisais référence aux écrivains aveuglés par l'histoire. Hein, j'avais parlé auparavant du problème qu'il y a, peut-être mettre dans le même sac Aragon, Brasillac, enfin je ne disais pas Brasillac, mais Drieu-La Rochelle, etc. Et c'est ça dont je parlais. C'était pas du tout des lecteurs de Céline. Je crois qu'il y a eu contresens là-dessus. Enfin, voilà.
Monsieur, vous pourriez attendre parce qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà demandé la parole, s'il vous plaît. Monsieur Gibault.
Oui, je voulais dire que j'ai été passionné par les trois interventions, par les quatre interventions. Des quatre orateurs d'aujourd'hui. Je voulais dire seulement à monsieur, une toute petite réserve à monsieur, je cherche son nom, pourtant je le connais par cœur, Yves Pagès. Quand vous avez employé à la fin de votre intervention, qui était remarquable, hein, j'ai beaucoup aimé, le mot mercenaire. Hein. Céline, mercenaire d'une idée, parce qu'un mercenaire, c'est un soldat qu'on paye pour aller au combat. Hein. Je crois que c'était peut-être un peu excessif.
Je vais juste répondre là-dessus. Petit mea culpa sur le terme de mercenaire, qui voudrait dire stipendier, qui voudrait dire vraiment qu'il a été financé. Non, bien sûr, c'est pas bien. J'emploie plutôt le mot mercenaire, là, dans le sens de dire, pour les gens qui, cette petite querelle de nuance qui serait de dire que, incontestablement, il n'a pas fait partie de tous les dîners de la collaboration de l'intelligentsia. Voilà, en vue à ce moment-là, mais disons que cette nuance me déplaît parfois parce que il me semble que dans ces lettres ouvertes, dans certains organes du disons de l'aile droite de la Révolution nationale auquel il écrivait pendant l'occupation, sa surenchère verbale avait un impact, de mon point de vue, avec la puissance de l'humour qu'il avait aussi, avait un réel impact politique qui fait qu'à mon avis, d'ailleurs, parfois, c'était presque pire que s'il avait été un collabo. Bon teint normal. Voilà, ça avait plus d'effet. Le mot mercenaire, entièrement d'accord, il ne l'a jamais fait par intérêt. Ça, c'est une attaque sans intérêt. Enfin, bien sûr, ça ne tient pas debout, ça.
Alors, une dernière question, oui. Pour qu'on puisse ensuite entendre Delphine de Thon.
Oui, c'est à propos de mea culpa, parce que ce qui m'a frappé quand même, vous avez évidemment le clivage, c'est 1937, bagatelle pour un massacre. Et apparemment, je pense à ça d'autant plus que la journée d'hier était consacrée à la réception critique, enfin la partie du matin. Je me souviens très bien que lorsqu'il y a eu le renouveau des études céliniennes à la fin des années 70, je me souviens que certains céliniens, traitant précisément de mea culpa, ont utilisé à propos de ce libelle l'expression anticommunisme criminel. Et ce qui est frappant, c'est aujourd'hui, lorsque je vous entends, et je ne porte pas de jugement, il y a une certaine mansuétude à l'égard de mea culpa, car vous parlez tout le temps de 37, alors que 36, et au contraire, M. Pagès, mea culpa, vous ne voyez pas d'objection quant au fond. Et c'est assez intéressant de voir cette évolution de la réception critique. Les Céliniens, ceux qui écrivaient, qui publiaient des études dans ces années 70, parlaient d'anticommunisme criminel et critiquaient justement très fortement mea culpa. Et il me semble que ça s'estompe, ça.
Oui, non, sur le point très précis de mea culpa, mais je pense que voilà, moi, j'ai la conviction, je pense assez minoritaire, que mea culpa peut être est très ambivalente justement sur la critique de l'Union soviétique et ne peut pas être totalement identifiée à une critique uniquement d'extrême, enfin pré-fasciste ou je ne sais quoi, enfin bon, comment les gens veulent l'appeler, mais je suis pas très sûr que c'est une vision très partagée à vrai dire. Par ailleurs, au moment où il écrit Mea culpa, lui-même était déjà passé de l'autre côté de la barrière, ça c'est clair. Dans sa tête. C'est-à-dire que les droits sociaux, le Front populaire, c'est pas passé. Et là, je pense que ça fait réfléchir aussi sur...
Non, je vous ai pas refusé le micro, monsieur, mais on doit... J'aimerais, monsieur, s'il vous plaît, je vous demande d'une part de prendre le micro parce que les débats sont enregistrés, ça permettra d'entendre ce que vous voulez nous dire, mais je suis là également pour respecter le temps et j'aimerais aussi que le public qui est dans la salle puisse entendre Delfeuille de Thon. Je vous remercie.
Bonjour Delfeuille de Thon. Mon micro fonctionne maintenant. Je pense que le vôtre aussi.
Est-ce que j'ai le droit de poser une question? Voilà. Que veut dire bagatelle pour un massacre? Un massacre de qui?
C'est moi qui vais répondre sur ce point.
C'est le massacre à venir. Quoi. C'est
mais bien sûr.
C'est évidemment le massacre d'une nouvelle guerre mondiale. Céline est paniquée, voit qu'il y a des gens qui se saoulent à l'eau de la Marne, voit aussi que des organisations juives françaises, américaines et autres appellent à la croisade contre Hitler.
Non, oui, mais alors, franchement, monsieur... vous êtes la doublure lumière de Forisson, donc ça va mal finir, là.
Monsieur. Monsieur Delfeuille de Thon, je commence cet entretien en vous présentant comme spécialiste de la censure.
Quoi, oui, de l'anti-censure.
Non, je voudrais commencer par dire, donc, je pense que beaucoup de gens vous connaissent.
C'est pas la peine de me présenter.
Si. Vous êtes ancien d'Arakiri, chroniqueur actuellement au Nouvel Obs, grand amateur de Céline, et vous venez de faire publier votre journal aux éditions Wombat. Alors, la première question que je voulais vous poser, c'est comment avez-vous découvert Céline et puis à quelle époque?
J'ai découvert Céline quand j'avais 17-18 ans, quoi, comme, comme tous les jeunes gens qui commencent à lire. Quoi. Mmh. Et le premier livre de Céline que j'ai eu, c'est un livre que j'ai trouvé sur les quais en solde, parce que les livres coûtaient cher et puis j'avais pas l'argent. Et c'était Voyage au bout de la nuit, l'édition Froissart, ça s'appelait, je crois, quoi, l'édition, la première réédition de Voyage au bout de la nuit, que j'ai toujours d'ailleurs.
Et est-ce
il doit
vous...
valoir cher maintenant.
Oui, il y a des chances. Et est-ce que vous avez un roman de prédilection?
Non, parce que ça change tout le temps. Donc, tout Céline est de prédilection quoi, pour moi. Quoi. C'est, y compris les pamphlets. Tout à l'heure, j'ai relevé quelque chose que disait Pagès là, à propos de Mort à crédit, il n'avait plus rien à dire, etc. Et la réception de gauche. Hier, on en parlait de Rivet dans le Canard enchaîné qui avait dit du bien de Bagatelle. Mais ce que, j'ai été revoir ce qu'il avait écrit. Mais non seulement il dit du bien de Bagatelle, mais il prend la précaution de dire après Mort à crédit, enfin, on retrouve Céline. C'est-à-dire qu'il enfonce encore Mort à crédit pour louer Bagatelle. Ça montre à quel point la réception, le mal que quand même ça avait pu faire à Céline. Quoi, parce que... 2 ans après, on trouve encore la nécessité, pour louer Bagatelle, d'enfoncer encore Mort à crédit.
Mais ça montre aussi, ça illustre encore aussi la bêtise de la critique de gauche de l'époque.
De la critique de tous les temps. Hein.
Ouais. Alors moi, je me demandais, est-ce que c'est plutôt votre sensibilité libertaire ou plutôt votre goût pour la langue qui vous a amené à être un amateur de Céline ou les deux?
Ouais, c'est peut-être lui qui m'a donné le goût de la langue aussi. Hein. Je veux dire, quand on commence à lire, on choisit ses auteurs. Quoi. Ouais. L'autre jour, j'ai créé un article à propos de l'histoire de la célébration là, de,
ah bah oui.
Bon, et du ministère de la Culture. J'ai dit que quand le jour où la chair est triste et où on n'a rien à lire, il reste La Fontaine et Céline. Pour moi. Bon, j'entendais Martin qui disait il y en a beaucoup d'autres. Non, il n'y en a pas beaucoup d'autres au XXe siècle. Vraiment, j'ai été un fan, je suis toujours un fan de Marcel Aimé, de Queneau, des gens comme ça. Mais... ça ne tient pas la route à côté de Céline. C'est-à-dire que Céline, on peut en lire trois lignes et on les remplit. Alors que les autres, il faut lire des pages. C'est toute la différence. Et La Fontaine, c'est pareil. La Fontaine, bon, on ne va pas parler de La Fontaine. Mais c'est Céline, que c'est de la poésie, comme c'était dit dans le spectacle hier par Céline lui-même, dans le spectacle de Denis avant.
Mais c'est parce que vous trouvez qu'il y a un art de la sentence, du raccourci, qu'on trouve aussi chez La Fontaine?
C'est pas la sentence. Oui. Oh, évidemment, on peut faire des choix et puis mettre, je sais plus comment, chez Pierre Auré, là, les pensées de Céline, quoi. C'est la foutaise, ça. Bon. Comment dire? C'est de la poésie, quoi, tout simplement, quoi. Tout est poésie, quoi. D'un château à l'autre, j'ai commencé à le relire parce que c'était le sujet, là, bon, votre sujet. En trois jours, j'ai pu en lire que 110 pages, quoi. Plus, j'avais commencé par la variante, là, qui est dans le... Pas la variante, mais quoi, le premier jet qui est dans l'édition de la Pléiade et qui est fort intéressant.
C'est certain. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui de son rapport à l'histoire et comment est-ce que vous le voyez, vous?
Par rapport à l'histoire, ce qu'il y a, c'est que si on regarde l'œuvre complète de Céline, les Pléiades, il y a deux Pléiades, et encore, bon, qui concernent, si vous voulez, qui sont hors l'histoire, quoi, Moracré. Et puis tout le reste, le futur Pléiade sur les pamphlets, la correspondance, tout au moins si on la prend dans sa totalité, c'est quand même les trois quarts de la correspondance, c'est l'après-guerre. Bon, et puis la trilogie, et puis féerie, et bon, etc. Tout ça, ça vient après les pamphlets, et comment dire, et c'est le Céline qui a écrit les pamphlets. C'est-à-dire que c'est Céline qui se défend. Qui défend ses pamphlets, en fin de compte, quoi. Parce qu'en même temps qu'il se défend d'avoir dit certaines choses, ça a été dit abondamment là, il ne cesse de les répéter, quoi. Mais il les répète en atténuant.
Et est-ce que vous partagez l'idée que j'avais développée, qu'il y a quand même une violence qui est faite au lecteur, du coup, à cause de ces attaques?
A dû faire croire des choses au lecteur.
Et de cette surenchère un peu permanente.
Ben, c'est-à-dire que, oui, bon, il compare son sort à celui des Juifs, des Juifs persécutés. Il dit que ça fait... Mais quoi, je pense que tout individu persécuté subit la même chose. Il a eu peur d'être tué. Il a vécu pendant plusieurs années avec l'idée que il avait le revolver, il s'est sauvé par les toits. Il y a quand même eu. Il a pété de trouille, quoi. Et il a été traqué. Et s'il s'est enfermé à Meudon, c'est peut-être parce qu'il n'osait pas trop sortir aussi. Bon, il y avait qu'il s'est attelé à la tâche d'écrire ses chefs-d'œuvre là, mais en même temps. Je vois pas Céline arrivant, il se comparait à Léoto là dans le spectacle d'hier, bon, arrivant à une générale et puis s'en tirant bien. Je veux dire, il aurait été assisté à une générale d'une pièce d'Anouilh ou de l'André Roussin, n'importe qui. Bon, qu'est-ce qui serait passé?
Vous pensez que la violence était encore si forte à son encontre au début des années 60?
Comment?
La violence était encore si forte à son encontre au début des années 60?
J'ai pas compris.
Est-ce qu'il prenait vraiment un risque en sortant au début
mais
des années 60?
Pas. C'est pas qu'il prenait un risque, c'est qu'il l'a pas pris.
Mais est-ce qu'il y aurait eu un risque,
François Gibault? Mais quoi, il sortait pas. Il sortait, Nimier le mettait dans sa voiture et puis il l'emmenait quelque part, mais il ne sortait pas. Il n'a jamais pris le métro, il n'a jamais pris l'autobus. Il a...
Non, mais c'est aussi une pause, c'est quand même aussi une façon d'être...
Une pause pendant 10 ans. Oh, il était à sa table de travail, il travaillait comme une bête, il reluquait les danseuses, et puis c'est tout ce qu'il faisait.
Non, mais de toute façon, il a travaillé, il a produit ses 5 derniers romans pendant cette période, et c'est vrai que ça exige
un travail
considérable.
Quand on voit la richesse d'écriture, il n'y a pas une ligne qui soit gratuite. Toutes les lignes sont travaillées, toutes les lignes ont leur chanson, quoi.
Oui, et puis il disait qu'il s'intéressait même au sort de la virgule.
Bah oui.
Est-ce que vous voulez...
Et il faut rendre hommage à Marie Calavaggia.
Absolument.
je me bats aussi pour la vie, mes propres virgules, mais lui, je ne vais pas vous comparer à ça. La virgule, c'est très important.
Rajouter un dernier mot, puisqu'on nous demande qu'est-ce que vous voudriez dire comme dernier mot aujourd'hui ?
J'ai pas de dernier mot...
Une bonne réponse.
J'avais noté tout. Mais, je voulais parler des chats, tiens. Il est à Sigmaringen, on revient à Sigmaringen, vous voyez, pour hommage, et il raconte qu'il a son chat, et que tout le monde le hait parce qu'il a son chat, et que les autres, il y en avait un qui avait oublié son chat à Loudéac, et il y a une page sur le chat oublié à Loudéac qui est vraiment très très drôle, quoi, ces gens qui ont tout lâché, y compris leur chat. Et alors, je peux donner un truc d'actualité, puisque je suis journaliste. Il y avait une dépêche AFP ce matin, du Caire, qui disait que il y avait une protestation de je ne sais quelle association de défense des animaux. Les Américains sont en train de rapatrier en catastrophe, presque comme à Saïgon, leurs ressortissants qui sont en Égypte. Et ils n'ont pas le droit d'emporter leurs animaux domestiques dans l'avion. Et alors, ça proteste. Alors là, tout de suite, ça m'a rappelé le chat de Loudéac.
Voilà. Bon, moi, je pense qu'on va clore sur ce point. Merci beaucoup.